Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Cameroun, l'ambassadeur des États-Unis convoqué au ministère délégué à la présidence de la République chargé des relations extérieures. Peter Henry Bollerin y a été reçu hier par le chef de la diplomatie camerounaise, le jeune Mbella Mbella. Cette convocation fait suite à une sortie médiatique du diplomate américain sur l'avenir politique du président du Cameroun. De Yaoundé, le point avec notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
De sources ministérielles sous anonymat, la convocation de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Bollerin, avait trait aux déclarations faites le 18 mai dernier par le diplomate américain au lendemain d'une audience que lui avait accordée le président du Cameroun, Paul Biya. Des déclarations largement partagées à la presse camerounaise dans lesquelles l'ambassadeur américain disait par exemple avoir suggéré à Paul Biya de réfléchir à son avenir et à comment il souhaite que l'on se souvienne de lui dans les livres d'histoire. La chancellerie américaine à Yaoundé n'a pas laissé filtrer la moindre information relative à cette convocation de son ambassadeur. Mais d'autres sources diplomatiques à Yaoundé ont confirmé à VOA Afrique la convocation de l'ambassadeur américain par les autorités diplomatiques camerounaises. Une convocation qui s'est déroulée, a précisé une autre source diplomatique, loin des caméras. Les déclarations de l'ambassadeur américain ont suscité des réactions divergentes au Cameroun. Les partisans du président Paul Biya ont notamment critiqué la volonté de Washington d'infantiliser le Cameroun. À 85 ans, Paul Biya entretient encore le flou sur sa probable candidature à l'élection présidentielle prévue cette année. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
L'Ebola en RDC maintenant, à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où sévit la fièvre hémorragique dans le nord-ouest du pays, la viande de brousse n'attire plus beaucoup de consommateurs. Et pour cause, depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola le 8 mai dans l'Équateur, les habitants ont changé leur habitude de consommation. Plus de détails avec Marie Benson.
La viande de brousse est très appréciée de la majorité des habitants de Mbandaka. Elle n'attire plus les consommateurs depuis la déclaration de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Les habitants sont convaincus que la viande de brousse est le vecteur de la maladie. Ainsi, le gibier s'est fait rare dans les marchés, mais quelques rares vendeuses continuent de découper cette viande sans aucune mesure de protection. Le virus Ebola se transmet de l'animal à l'homme à travers des contacts directs, notamment par la chasse. Le dernier bilan fait état de 27 morts. Lundi, les autorités congolaises et l'OMS ont lancé une campagne de vaccination ciblée à Mbandaka, visant près de 600 personnes, la plupart des travailleurs dans le secteur de la santé ou ayant eu contact avec des malades.
La guerre contre les djihadistes au Sahel, au Mali, des djihadistes présumés ont tué deux vieillards à Ténincou dans le centre du pays. Et une dizaine de personnes ont perdu la vie dans un affrontement dans la région de Ménaka, dans le nord-est. Parmi les victimes, un officier de la coalition MSA Gatia et un chef de guerre djihadiste. Le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
La bataille dans le sable mouvant de Ménaka se poursuit. C'est pour cela qu'il y a eu hier un affrontement à Inazulu, localité située à 30 km au sud-est de Ménaka ville. Le bilan est de 3 morts du côté de la coalition MSA Gatia, dont un officier du MSA, Sidaham Ag Almata. 8 morts du côté de leurs ennemis, dont un important chef de la bande, Mokhtar Ag Libin. Il est connu comme l'auteur des dernières tueries des civils dans la localité de Takaten le 9 mai et de Taguette le 12 mai 2018, faisant une vingtaine de civils tués. À Ténincou, dans la région de Mopti, deux vieillards ont été assassinés. L'incident s'est déroulé dans la commune de Diafrawe, plus précisément dans le village de Waka. Selon nos informations, les djihadistes ont assassiné les deux vieillards qu'ils accusent d'être au service de l'État malien. Dans le même cercle de Ténincou, mais cette fois-ci dans la zone de Ganguel, deux jeunes bergers ont été tués près de leur campement. Certains d'entre eux sont portés disparus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes, au Burkina Faso, les forces de sécurité semblent avoir déjoué des actes terroristes en cours de préparation. Tout mardi, elles ont lancé une opération qui a permis de tuer trois djihadistes présumés à Rayongo, dans la banlieue de la capitale. Depuis janvier 2016, date des attentats contre le café Cappuccino et l'hôtel Splendide de Ouagadougou, les attaques terroristes sont devenues récurrentes au Burkina Faso. Quelle peut être la meilleure réponse à de telles incursions? Bagassi Koura a posé la question au sociologue burkinabé Jacob Yarabatiola.
On est parvenu à comprendre qu'il faut avoir une approche multifactorielle donc du phénomène, le prendre sous le plan géopolitique, le prendre sous le plan justement donc des facteurs incitatifs et des facteurs attractifs donc du phénomène, et faire en sorte que maintenant on le comprenne dans un projet global, dans la zone sahélo-sahélienne. Depuis un certain temps, on essaie donc de comprendre que depuis la crise qui sévissait au Mali en 2012, avec une arrivée massive des réfugiés sur le sol burkinabé, et en ce moment là, le Burkina a cessé à un certain moment d'être donc une zone de repli pour les terroristes, mais maintenant est une zone aussi convoitée par donc les terroristes, et les actes terroristes se multiplient donc dans ce sens-là.
Comment est-ce que les populations du Sahel vivent tout ça? Parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses ont changé ces dernières années, avec notamment la fuite des enseignants et certains fonctionnaires de cette région.
Oui. La question, exactement, c'est à ce niveau. Parce que la psychose est véritablement l'arme, justement, donc, des terroristes. Et la stratégie est telle que maintenant, tout le monde est terrorisé. Nous avons rencontré des jeunes, nous avons rencontré, donc, des populations qui vivaient paisiblement, qui faisaient l'élevage comme principale activité, qui ne peut plus rien faire. Et cette situation est très préoccupante. Quand on voit un peu, chaque fois, on attaque, on tue un maire, on tue un préfet, on enlève et on chasse, donc, des enseignants. On se rend compte que la stratégie, c'est effectivement de dire « ici, ce n'est plus votre territoire, poussez, laissez-nous la place ». La situation donc pour les populations est très préoccupante, et actuellement, c'est de faire en sorte qu'elles soient rassurées, qu'il y ait une présence militaire, qu'il y ait une présence de l'autorité de l'État qui est menacée sérieusement, mais tout cela encore reste à faire.
Comment est-ce qu'on peut sortir de tout cela? Comment est-ce qu'on peut arriver à vaincre le terrorisme au Burkina?
Bon, il y a des gens qui pensent qu'il faut vivre avec qu'on n'y peut rien. Je pense que c'est une approche fataliste. Ce qu'il faut faire, et je pense qu'il y a déjà des signaux, on a eu une approche militaire avec le G5 Sahel qui se met en place. C'est une approche qui a ses limites, mais il faut saluer quand même cette initiative si elle venait à être professionnelle. Certainement qu'il y aura des résultats. Il y a une approche aussi liée au développement donc de la zone du Sahel. On a mis en place un programme d'urgence pour le Sahel à coût de milliards. On attend donc de voir les effets. Et on a aussi justement quelques efforts au niveau interne qui doivent être faits et qui se font déjà. Mais tout cela, je pense que c'est une réponse globale sous-régionale qui viendrait à bout donc de cette nébuleuse.
Le sociologue burkinabé Jacob Yarabatiola, joint à Ouagadougou, au Burkina Faso. Égypte, le journaliste et chercheur spécialiste du mouvement djihadiste dans le Sinaï, Ismail Alexandrani, a été condamné à 10 ans de prison par une cour militaire égyptienne. Alexandrani, arrêté en novembre 2015, est accusé de faire partie des Frères musulmans, la confrérie panislamique, déclaré organisation terroriste par l'Égypte en 2013, ainsi que d'avoir publié des secrets militaires. Les autorités lui reprochent notamment de diffuser des informations susceptibles de nuire à la sécurité nationale dans ses entretiens et ses articles. Actualité hors d'Afrique maintenant, montée de tensions entre le Venezuela et les États-Unis. Le président Nicolas Maduro, le chef de l'État vénézuélien, a annoncé hier l'expulsion du chargé d'affaires américain à Caracas. Il réagissait ainsi à la décision de Washington d'imposer de nouvelles sanctions contre son pays après sa réélection dimanche. Les détails avec Eric Manirakiza.
J'ai déclaré persona non grata le chargé d'affaires des États-Unis, Todd Robinson, et j'annonce son départ dans les 48 heures, a déclaré hier le président socialiste dans un discours au Conseil national électoral. Nicolas Maduro a également ordonné l'expulsion de Brian Naranjo, le numéro 2 de la mission diplomatique américaine à Caracas, qu'il a accusé d'être le représentant de la CIA. Le président vénézuélien répondait au décret signé la veille par le président Donald Trump qui veut réduire la capacité de Caracas à vendre ses actifs. Dimanche, lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, M. Maduro, âgé de 55 ans, a obtenu 68% des voix contre 21% à Henry Falcon, son principal adversaire. Ces résultats ont été qualifiés de farce par Washington. Le département d'État a annoncé hier que si les expulsions sont confirmées, les États-Unis vont prendre des mesures réciproques appropriées. Les deux pays n'ont plus d'ambassadeurs respectifs depuis 2010.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.org.